Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Hélène Lefrançois, Bertie Bourdon, Lucas Lazo, réalisée par Émilie Valla et mise en onde ce matin par Adèle Caglar. Dernier temps de notre semaine consacrée aux inégalités de genre. Après avoir évoqué lundi l'arène politique, mardi l'école et puis hier le monde du travail, tournons-nous aujourd'hui vers un dernier lieu où la place des femmes est encore à conquérir, la ville.
Je me suis fait un tatouage.
Quand je suis sortie,
j'ai eu ce genre de commentaires.
Une balançoire sur un sein. Moi aussi, je veux monter sur la balançoire. Moi, je ne sors pas dans la rue pour me montrer, genre, regarde mon tatouage. C'est pour moi-même que je l'ai fait.
En réalité, ce sont les policiers qui nous arrêtent le plus. Ils nous font la leçon. Ils nous intimident et nous demandent de rentrer chez nous. Ils nous font culpabiliser d'être dehors la nuit, comme si nous faisions quelque chose de mal.
Ma mère n'arrête pas de me répéter d'avoir une bombe lacrymogène sur moi. Alors j'en ai toujours une dans mon sac.
Un jour, je me suis retournée et j'ai vu une bande de jeunes me tomber dessus. Ils m'ont attrapée, ils ont tabassé mon petit ami et ont essayé de profiter de moi en passant des mains partout sur mon corps. On en a marre de ce problème. Nous avons eu une révolution politique, maintenant nous voulons une révolution des mœurs.
De l'Inde à l'Égypte, en passant par le Maroc ou la France, les femmes sont très nombreuses à avoir fait l'objet de harcèlement ou d'agression dans la rue. Et si les mentalités et les modèles sociétaux sont évidemment responsables, la forme des villes ne serait pas totalement exempte de toute responsabilité. Une ville souvent accusée d'avoir été pensée par et pour les hommes. Les femmes seraient ainsi condamnées à la traverser sans y flâner, constamment soumise au risque de harcèlement et d'agression, sous le regard souvent empreint de jugement des hommes qui, eux, l'occupent, cette ville. Mais la ville inégalitaire n'est pas une fatalité. En effet, à Montréal, à Vienne, mais aussi à Barcelone ou encore à Rennes, des initiatives ont été mises en œuvre pour permettre aux femmes de davantage s'approprier cet espace public. Alors, loin de se cantonner à la dimension sécuritaire du problème, les plus efficaces d'entre elles s'inscrivent dans une démarche globale, incluant des dimensions économiques et culturelles. Alors, comment les femmes expriment-elles leur volonté de prendre possession de cette ville? De quel levier disposent les femmes, mais aussi les municipalités, évidemment, pour les y aider? Comment dépasser l'approche sécuritaire encore privilégiée par de nombreux responsables politiques, sans toutefois l'ignorer? Comment rendre la ville plus égalitaire? Et d'ailleurs, où se jouent justement ces inégalités de genre dans la ville? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Chris Blash. D'abord, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue urbaine et cofondatrice et coordinatrice de la plateforme de recherche et d'action Genre et Ville. Avec nous également en duplex de Grenoble, Sophie Louargan. Bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin, Sophie Louargan. Vous êtes géographe, membre du laboratoire Pacte de l'Université de Grenoble, auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Je pense à celui que vous aviez dirigé, par exemple, l'année dernière, Espace public, quelle reconnaissance pour les femmes. Il y a évidemment, quand on parle de la question de la ville et de la manière dont les femmes occupent cet espace de la ville, on sait bien d'une certaine manière, qu'il existe une inégalité profonde, parce que notre expérience nous a permis de nous forger cette conviction. Mais si on essaye de dépasser les choses et d'étayer un petit peu cette conviction avec des chiffres, avec des études qui permettent justement d'avoir une approche un peu plus scientifique de cette inégalité, est-ce qu'on peut avoir, on va commencer avec vous Sophie Louargan, on va commencer par les régions, c'est pas toujours le cas, du côté de Grenoble, donc Sophie Louargan, est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres, quelques études particulièrement notables qui nous permettent justement de bien appréhender cette inégalité de genre qui peut exister dans le mode d'occupation de la ville, Sophie Louargan, au-delà de l'intuition?
Ah oui, alors bien sûr, effectivement, prendre place dans l'espace public et dans l'espace de la ville, c'est effectivement regarder comment on peut, de manière plus juste, accéder à des lieux, des ressources et des services comme les transports, les loisirs et la culture. Et effectivement, quelques chiffres saillants, 60% des Européennes ont été victimes de violences sexistes et sexuelles en 2017, et ça on a les données au niveau de l'Union Européenne. On a des données aussi voilà, sur la fréquentation en termes de mobilité. On sait aujourd'hui que encore, les femmes à plus de 30% dans leur quotidien, dans leur temps, organisent ce qu'on appelle les temps de vie, les temps de la famille, et ça que ce soit à la fois dans un contexte européen ou à l'international, au Maroc ou au Québec où j'ai pu travailler. Et on le voit également dans, vous parlez des formes de la ville, et ben dans la signalétique et dans la toponymie, par exemple, des noms de villes. On sait qu'il y a 6% aujourd'hui des noms hein, qui sont des boulevards, des places, voilà, des rues accordées plutôt aux hommes. Et c'est pas anecdotique parce qu'effectivement, les femmes sont en train, depuis la révolution anthropologique qu'elles ont faite au XXe siècle, d'acquérir le monde de l'espace public au sens politique et donc d'être reconnues et d'avoir cette reconnaissance.
Chris Blage, peut-être d'autres éléments, des chiffres particulièrement saillants qui nous permettent justement de bien ressentir justement cette inégalité de genre dans la ville.
Alors, plutôt que de parler de chiffres, parce que enfin ça a été dit, les chiffres sont extrêmement importants et nous, la première chose qu'on fait quand on va sur un terrain, c'est de relever les choses. On se rend compte que les chiffres sont une première étape, mais elle ne suffit pas. C'est-à-dire que nous, ce qu'on préconise, c'est une observation attentive de ce qui se joue. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, se retrouver dans un espace où on va noter qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et pas forcément dans un jardin pour enfants, mais dans la rue. Mais dès lors qu'on commence à observer ce qui se joue véritablement, c'est-à-dire combien de temps elles y passent, où elles s'arrêtent, si elles s'arrêtent, comment elles s'arrêtent, on s'aperçoit tout d'un coup que on va avoir peut-être moins d'hommes, mais qui vont être beaucoup plus présents dans la durée, dans l'espace, qui vont occuper l'espace différemment, avec en général un sentiment de légitimité dans ces espaces, là où on voit que les femmes font des arrêts très ponctuels, toujours liés à des fonctions ou très très majoritairement liés à des fonctions. Donc c'est une double lecture qu'il faut avoir, qui est une lecture des chiffres et une lecture des attitudes.
Ouais, il faut dépasser les chiffres, parce qu'effectivement, ce constat, Sophie Louargan, vous l'avez fait aussi sur les espaces verts du côté de Grenoble. Parce que quand on regarde, a priori, effectivement, on se rend compte que ces espaces verts, vous l'avez fait sur quelques jardins de Grenoble, bien, ils sont effectivement occupés de façon plus ou moins égalitaire entre les hommes et les femmes. Sauf que quand on dépasse ce simple chiffre, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça, Sophie Louargan.
Oui, effectivement, alors que ce soit sur les parcs, espaces de nature ou sur les jardins, on va dire que, comme le disait Chris Blage, il faut dépasser la question des chiffres, parce que, en fait, les rapports sociaux inégalitaires dans la ville, la manière dont elle a été construite, ça oblige les femmes à s'adapter en permanence. Et quand je dis les femmes, c'est toutes les catégories de femmes selon l'âge et leur situation. Et donc, cette adaptation fait que, de toute façon, comme elles se sentent dans des situations de confort ou d'inconfort, et le plus extrême de l'inconfort, c'est des violences, elles n'arrivent pas à s'engager ou à être reconnues dans les espaces. Et du coup, effectivement, quand on prend on regarde les lunettes du genre, comme on met ces lunettes-là, ben on regarde effectivement que dans les espaces de nature, il y a 70%, par exemple dans les jardins, plutôt des femmes, etc., et qu'elles s'approprient ces espaces-là avec à la fois effectivement de la reproduction d'inégalités, mais aussi des choses intéressantes qui se passent dans l'appropriation de ces espaces. Et donc, effectivement, la manière dont j'avais pointé la question des parcs, des espaces de nature, qui était un travail fait avec la métro, avec la métropole de Grenoble, c'était aussi de dire que la question des inégalités de genre ne concernait pas que des quartiers prioritaires et que c'était la question du droit à la ville pour les femmes concernait tous les espaces de la ville et des territoires.
Chris Blage, est-ce qu'il existe des lieux dans la ville qui sont plus propices à l'exclusion des femmes? Je pense par exemple au café, dont on a énormément parlé. Est-ce que ce sont des espaces qui sont particulièrement propices à leur exclusion?
Alors, oui, on parle beaucoup des cafés. Je pense que c'est pas la seule chose. Je pense que ce qui est intéressant, alors, au-delà des cafés, encore une fois, qui ont été souvent notés, mais alors c'est pas tous les cafés, c'est pas tous les moments. C'est une grande constante néanmoins. Même nous, on a fait, parce qu'on parle souvent des cafés dans les quartiers prioritaires de la ville justement. Et nous, quand on a fait notre étude sur la place de la Madeleine, on s'est rendu compte qu'à l'heure du déjeuner,
quartier chic s'il en est.
Au cœur du 8e arrondissement, quartier chic, à l'heure du déjeuner. Qui on retrouve en terrasse, plutôt soit des hommes seuls ou des personnes, enfin des tablés mixtes, mais on s'est aperçu que les femmes mangent plus volontiers dans l'espace public, sur les marges de l'église de la Madeleine, etc. Donc on voit que pour des questions à la fois économiques, mais aussi des questions de légitimité, les femmes iront moins volontairement seules au café ou au restaurant que des hommes, par exemple. Donc c'est intéressant, parce que c'est vraiment, encore une fois, on voit que c'est quelque chose de structurel, comme l'a dit Sophie Largan tout à l'heure. On est sur un phénomène qui croise toute la société, qui ne va pas être spécifique à un quartier. Ce qui est intéressant de noter, par contre, et ça, plusieurs chercheuses l'ont noté, c'est qu'il y a la question des verrous. Et en général, les hommes tiennent les verrous, alors qu'ils soient symboliques ou qu'ils soient physiques. Donc,
Qu'est-ce que c'est, les verrous?
Les verrous, ça peut être... Alors, on va dire que les hommes qui font partie de classes moins favorisées ont plutôt leur espace d'expression, c'est plutôt l'espace public. Donc pour eux, ça va être l'entrée du métro, ça va être l'entrée d'un immeuble. Plus symboliquement, les verrous, quand on se retrouve dans des quartiers plus bourgeois, ça va être l'inaccessibilité à certains postes. Donc on voit que ça franchit, il n'y a pas de porosité. Enfin, il y a plus exactement une très grande porosité entre ce qui est de l'espace public et ce qui est du reste de la société. Et ça montre aussi qu'on ne peut pas agir uniquement sur les questions d'espace public, mais qu'il faut traiter en même temps et de façon holistique et complète tous les sujets.
Oui. Sophie Louargan, il y a aussi un autre domaine dans lequel les villes peuvent se montrer sexistes. C'est la question des budgets, la question de l'argent. Quand on regarde un peu les dépenses, alors une fois encore, toutes les villes ne sont pas sur le même niveau. Et on va voir qu'il y a effectivement des modèles qui sont intéressants. Mais en gros, on se rend compte qu'on dépense en réalité plus d'argent pour des activités plutôt masculines. Alors là aussi, je mets des guillemets parce qu'évidemment, du coup, je me fais le relais d'un certain nombre de stéréotypes. Il n'empêche que les normes sociales les construisent ainsi et que les budgets vont davantage vers des pratiques considérées comme telles, considérées comme masculines. Donc on voit qu'il y a aussi là, à travers la question de la manière dont on met les budgets, une forme de sexisme.
Oui, alors c'est pour reprendre aussi les travaux d'Yves Rébeau, mais qui renvoie aussi à la question du café. Quelque part, la ville, elle était construite aussi pour faire plaisir, quoi, et faire plaisir aussi aux hommes dans leur flânerie, dans leur activité. Et c'est vrai que c'est un construit du 19e siècle, hérité de l'industrialisation. Et quelque part, la pensée, des équipements, effectivement, quand on regarde les offres de loisirs, et notamment de la petite enfance et jusqu'à l'adolescence, on sait que les budgets s'orientent plutôt, effectivement, alors ça a été le cas en France sur les analyses faites, mais aussi à Genève et dans d'autres villes comme Vienne ou Berlin, s'orientent sur des équipements du type skatepark, qui sont plutôt effectivement appropriés culturellement et symboliquement par des garçons, par des ados. C'est pas pour ça que les filles ne veulent pas y aller ou n'y accèdent pas, mais elles ne s'autorisent pas. Et c'est vrai que ce qui est évoqué sur les cafés, c'est qu'il y a une représentation aussi de penser quelque part le corps des femmes, des jeunes filles, hein, là où elles doivent être dans la ville. Et effectivement, que ce soit dans le jour et la nuit, le corps seul d'une fille, ça pose question et donc c'est soumis à des violences. Et du coup, dans la question des budgets, dans l'orientation budgétaire des municipalités, le fait de pointer qu'il y a 60% des équipements qui sont financés pour des loisirs, plutôt pour des garçons, y compris dans l'offre d'animation socioculturelle, ça permet aussi de pointer qu'effectivement, par ces constructions-là, alors qu'ils renvoient aux équipements culture, loisirs par exemple, on peut décliner ça, et ça a été le cas dans la ville de Vienne en Autriche, dans toutes les composantes du budget, et montrer aussi que quelque part, et notamment en France, dans une conception d'impôts publics, il y a une orientation plutôt faite des budgets municipaux sur ces loisirs-là.
On reviendra sur la question de Vienne, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire que des salles de danse, Chris Blash, parce qu'il y a des solutions justement pour déconstruire tout ça. Je pense à la ville une ville suédoise qui s'appelle Umeå, où plutôt que de faire de nouvelles installations sportives, on a décidé de l'organiser autrement. Il y avait des stades de foot, par exemple, qui étaient essentiellement utilisés par des garçons. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a redistribué les créneaux horaires de sorte à ce que les filles viennent jouer au foot. Et ça marche très bien. D'ailleurs, il se trouve que j'ai regardé hier. Aujourd'hui, il y a quasiment autant de filles qui jouent dans ces stades de foot que de garçons. Il y a d'ailleurs visiblement une très bonne équipe féminine. Donc, on peut faire les choses, on peut lutter contre ces stéréotypes malgré ces orientations budgétaires un peu biaisées.
Tout à fait. Alors, la question budgétaire, elle est vraiment centrale, et je sais que, dans toutes les municipalités avec lesquelles on travaille, alors c'est toujours vu comme la grosse contrainte, parce que tout d'un coup, il faut recalculer quelque chose en plus, mais les résultats sont frappants, et ça permet quand même d'avoir une très bonne idée de ce qu'on peut faire. Alors, évidemment, la ville d'Umeå, comme vous venez de citer, est assez exemplaire sur ce terrain-là, parce qu'elle a mis, depuis les années 2000, ça date pas d'aujourd'hui, donc on peut aussi le noter, toute une politique sur le sport, et en particulier sur le foot, et ça a donné des effets. ça n'a pas été simple. Hein. Ça a été il y a eu beaucoup de bastions au départ qui se sont élevés pour contre cette politique. Mais au final, on voit aujourd'hui qu'il y a effectivement une égale représentation et que encore une fois, si on a une visibilité sur quelque chose, on l'a bien vu au moment de la Coupe du Monde de foot féminine où tout d'un coup il y a eu un véritable engouement. Dès lors qu'il y a visibilité, on s'aperçoit qu'il y a égalité potentielle. Mmh. Ce que j'ai presque envie de réclamer en retour, c'est que on oriente aussi les garçons vers d'autres types de sports, parce que autant il est aujourd'hui relativement admis que les filles aillent vers des sports de garçons, c'est-à-dire qu'en gros elles montent dans la hiérarchie, hein, si on parle d'inégalité, il est beaucoup plus difficile pour les garçons d'aller vers des sports ou vers des activités qui seraient moins viriles. Donc il y a vraiment aussi une question qui se pose sur la dévirilisation des activités et de trouver des choses et qui permettent d'autres types de mixité, de penser d'autres types d'activités aussi.
Un travail à faire dans les deux sens. Sophie Louargan, revenons un peu en arrière. En 1999, l'Union européenne décide de rendre juridiquement contraignant le principe du gender mainstreaming, qui est donc l'approche intégrée de l'égalité. Et certaines villes vont alors s'inspirer justement de ce principe-là. Vous parliez de Vienne tout à l'heure, c'était le cas. Il y a Berlin, il y a Barcelone, il y a d'autres villes encore. Peut-être qu'on peut commencer par un peu de définition, Sophie Louargan. C'est quoi le gender mainstreaming quand on parle de la question des villes?
Oula. Alors.
Quoi, oula?
Pour faire court.
Vous pouvez faire un peu long, hein.
France, voilà. Pour faire court, en France, la déclinaison, ça a été retenu, hein, sous couvert aussi, voilà, des conceptions françaises plus sur l'égalité. C'est l'égalité femmes-hommes appliquée dans toutes les politiques publiques et de manière transversale. Et l'Union européenne, depuis 1957, dans le traité de Rome, a inscrit l'égalité femmes-hommes et sa promotion des luttes contre les inégalités dans sa constitution. Et ça a mis beaucoup de temps pour être décliné, on va dire, dans d'autres politiques publiques que les politiques sociales ou les politiques d'éducation, qui sont évidemment prioritaires et pas remettre en cause. Et l'impulsion dans les années 95 et 99, et donc les exemples que citait Chris Blage et vous-même sur le nord de l'Europe, ont témoigné aussi que certaines villes se sont saisies très rapidement de l'application dans toutes les politiques publiques, donc du budget jusqu'à la ville, jusqu'aux politiques sociales, du principe d'égalité femmes-hommes. Et c'est vrai qu'il y a eu des expériences au travers des politiques urbaines, puisqu'on est sur la ville aujourd'hui, notamment en Italie, à Milan, sur les bureaux des temps qui ont incubé après à Rennes, voilà, dès les années 2000 en France. Et donc ce gender mainstreaming, ça permet de quelque part, mais comme bon, voilà, c'est les États membres qui ont chaque État a sa compétence sur l'égalité femmes-hommes, ça permet de mettre en place de manière appuyée, transversale, cette question de l'égalité femmes-hommes dans les politiques publiques.
Chris Blash.
Je trouve que c'est un outil très intéressant pour nous, même s'il n'est pas coercitif, c'est-à-dire que même s'il y a des obligations, en fait, il n'y a pas vraiment de sanctions si les choses ne sont pas appliquées. En même temps, quand on arrive sur un territoire, déjà le fait de dire qu'aujourd'hui, toutes les villes de plus de 20 000 habitants sont tenues de faire un rapport d'égalité comparée, ce qu'on appelle, c'est-à-dire regarder à l'intérieur de toutes les éléments administratifs d'une commune et de voir si l'égalité est appliquée. Déjà, cette démarche-là commence à faire bouger les esprits et nous ouvre un petit peu le terrain pour nous avoir une approche un peu plus rapide pour faire appliquer un certain nombre de mesures ou mener des actions pour desserrer cet étau des inégalités sur les territoires. Donc c'est un soutien, c'est souvent peut-être pas suffisant, mais à chaque échelle on voit que ça nous permet d'avancer un petit peu plus vite.
Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait qu'une ville va décider de se lancer dans la lutte contre les inégalités de genre dans les villes? Est-ce que c'est du volontarisme politique? C'est parce qu'à un moment, il y a un ou une responsable politique qui va décider de se lancer? C'est parce que il y a des mobilisations très fortes au niveau local et que donc finalement, cette question vient sur le devant de la scène et s'impose? Pourquoi est-ce qu'il y a des villes où ça fonctionne? Je pense à Rennes, par exemple, et des villes où c'est beaucoup plus absent, quoi.
Alors j'ai envie de dire que s'il y a des villes où ça fonctionne, c'est précisément parce que ça fonctionne de façon relativement large. Si ça a fonctionné à Rennes, c'est parce qu'il y a eu précisément cette approche holistique, c'est-à-dire qu'il y a eu le bureau des temps, il y a eu des réflexions sur la lumière, il y aurait des réflexions sur les ambiances, il y a eu des réflexions sur beaucoup de choses à la fois qui ont permis de travailler ce sujet de façon approfondie et dans la durée. Ça voulait dire aussi qu'il y a eu un soutien politique, que ça a été suivi par les services, qu'il y a eu des implications. Donc on s'aperçoit que nous, on peut travailler souvent avec des villes où ça, il va y avoir une volonté politique, mais c'est très difficile de faire suivre dans les services parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises, parce que c'est perçu comme une, encore une fois, comme une un travail supplémentaire ou des budgets qui pourraient augmenter. Et donc on s'aperçoit que là où ça marche vraiment bien, c'est quand on a
une convergence
exactement de choses. Et c'est ce qu'on vit avec la ville de Villiers-le-Bel, par exemple. Nous, on travaille depuis 2013 et ça a fonctionné d'abord sur des petits éléments. Et aujourd'hui, on fait un travail avec l'Agence nationale de rénovation urbaine à Villiers-le-Bel sur un travail égalitaire à tous les niveaux de la ville et de façon à la fois transversale et sur du projet concret. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui peut se passer.
Sophie Loargan, peut-être un mot à ajouter là-dessus. Et puis, il y a aussi une question qui se pose, c'est que on discute là depuis une vingtaine de minutes autour d'un certain nombre d'initiatives intéressantes en la matière, que ça soit du côté de Vienne, de la Suède, ou même ici en France. Mais est-ce qu'au fond les choses sont transposables? Parce que il y a évidemment des initiatives extrêmement intéressantes, mais on se dit que peut-être à un moment les terreaux politiques et culturels ne permettent pas toujours de transposer telles ou telles initiatives. Sophie Loargan.
Oui, ben ça fait une bonne transition aussi par rapport à la question précédente où effectivement bon Grenoble a été un lieu très incubateur à la fois militant mais aussi politiquement voilà, il y a une maison de l'égalité femmes-hommes qui est en place depuis une quinzaine d'années et donc il y a eu un fort lien j'ai envie de dire à la fois et soutien politique mais aussi universitaire sur ces questions d'égalité femmes-hommes et c'est vrai que ce qui est intéressant dans les démarches d'égalité c'est effectivement de donner un champ des possibles. Et moi, j'aime bien toujours dire que d'accompagner les collectivités, municipalités, mais aussi les associations sur leur donner à voir et leur donner des outils pour montrer ce qui peut être accessible, ce qui paraît inaccessible et voilà, aller vers l'accessible. Donc, ça peut être les horaires de sport, etc. Et effectivement, tout n'est pas transposable dans la mesure où il y a des outils, effectivement, où on regarde effectivement les outils du genre et effectivement, on va appliquer de la signalétique, de la toponymie, on va faire des modèles d'analyse des transports. Par contre, la question de la variable culturelle, symbolique, économique, on peut pas transférer, effectivement, et ce serait dans une posture assez coloniale aussi de considérer par exemple qu'à Casablanca on va pouvoir transférer les mêmes outils qui ont été testés à Grenoble. Il n'empêche qu'il y a une circulation de références internationaux et je parle de Casa parce qu'il y avait eu effectivement Casablanca, pardon, il y avait eu pas mal de mouvements autour d'agressions effectivement dans les transports et ça permet aussi d'échanger sur ce qu'on appelle les politiques de genre et développement à l'international où d'autres outils sont créés au titre alors de l'urbanisme mais aussi dans les territoires pour adapter en respectant le contexte local et aussi, Chris Blash parlait des verrous, c'est aussi, on sait qu'il y a des petites résistances qui peuvent être, quel que soit, alors là, le territoire international que j'ai pu observer, lié complètement à une crainte, effectivement, comme vous le disiez, que tous les garçons vont faire de la danse, etc. Et c'est pour ça qu'aussi, il faut travailler avec chaque territoire au plus près sur ce qu'ils ont envie de faire par rapport à cet investissement.
Je vais revenir sur la question de la circulation sur laquelle je voudrais vous entendre, ouais. Chris Blash, mais Sophie Loargan, encore un tout petit mot. Vous avez un exemple très concret de mesures qu'on a cherché à implanter dans un environnement culturel et politique spécifique et où ça a échoué?
Oui, alors...
C'est pas pour vous coller, hein, c'est juste...
non, c'est pas pour vous coller, mais je ne veux pas stigmatiser. On va dire, pour aller sur les grands courants internationaux et sur les grandes organisations internationales, le transfert, par exemple, du gender budgeting sur les applications des politiques de genre et développement, notamment, alors je parle du Maroc parce que j'y ai travaillé, on n'était pas dans une structuration à la fois d'observation des inégalités de genre, et je parle d'observation parce que grâce au Conseil à l'égalité femmes-hommes aujourd'hui en France, on a toute une politique observation sur les territoires, des indicateurs, etc. Il n'y avait pas une structuration, on va dire, des indicateurs qui pouvaient leur permettre d'aller sur du genre budgétisé, du développement. Et donc, ça les a mis plus en difficulté que finalement voilà, les avantager pour mettre en place des dispositifs qui étaient sur des catégories pas datables dans le pays, quoi.
Chris Blash, sur cette question de la circulation de l'information, parce que c'est vrai que, une fois encore, on échange autour de plein de belles initiatives qui sont extrêmement intéressantes, mais pour que tout le monde puisse en profiter, il faut qu'elle se diffuse, cette information. Est-ce que justement on est dans un cadre où ça se diffuse correctement, où les villes échangent entre elles? Est-ce qu'on a des réseaux transnationaux qui permettent, à travers les experts, à travers les décideurs, les décideuses politiques, d'échanger justement sur ces bonnes pratiques?
Oui, alors il se passe des choses à différents niveaux, différentes échelles. On peut retrouver des villes. Enfin, d'abord, il y a des colloques réguliers hein, sur ces choses-là. Par exemple, en France, on va avoir des échelles aussi au niveau européen. Il y a des groupements européens qui adressent ces questions. Je pense à l'Urbact, par exemple, qui est ou d'autres organismes qui permettent de réunir des villes entre elles et de travailler sur des thématiques. Et l'Urbact, par exemple, travaille sur ces questions d'égalité. On voit des choses qui se passent. Alors après, avec encore une fois toutes les réserves qu'a émis Sophie Louargan tout à l'heure sur une approche qui pourrait être vue comme coloniale ou post-coloniale. Je pense à des actions qui sont menées par l'AFD, qui est l'Agence française de développement, par exemple, qui, quelque part, promeut beaucoup plus vers l'extérieur des choses qu'on ne promet pas tellement en interne ici, en France, avec des guides sur l'égalité. Et où là, nous, on peut émettre certaines réserves parce qu'on s'appelle on sait que c'est par les femmes que parfois on peut faire bouger les choses sur un territoire, et donc on va arriver par cet angle-là pour essayer d'instaurer des politiques locales, etc. Donc c'est un sujet extrêmement complexe, je dirais même un peu touchy, un peu sensible, auquel nous on fait très attention. On travaille en Inde avec l'AFD, notamment avec le gouvernement indien, et on est tout le temps en train d'essayer d'amener du correctif pour être sûr que malgré les conditions qui nous amènent dans une posture coloniale, on va quand même essayer de réussir à faire des choses sur le terrain, et plutôt que de dire uniquement aux femmes, faites bouger les choses sur le terrain, d'essayer de voir comment on peut aussi impliquer les hommes pour qu'ils s'y collent un petit peu aussi. Donc voilà, la diffusion se fait, il y a plein d'échelles, ça reste encore assez intermittent néanmoins.
Et comment se fait-elle, Sophie Louargan, du côté de l'école, de l'enseignement? Est-ce que cette question de l'inégalité de genre dans la ville a pénétré la formation des architectes, des urbanistes, etc., etc., ou est-ce qu'on en est encore très très loin, Sophie Louargan?
Alors, on a beaucoup progressé depuis 5 ans, à la fois dans les écoles d'architecture. Alors, je pense, voilà, à la Villette, hein, où notre collègue Corinne Luxembourg est en place, mais aussi au sein de l'université Grenoble-Alpes, parce qu'effectivement, la formation des urbanistes, mais aussi, j'ai envie de dire, des encadrants dans les milieux scolaires et de l'éducation en général, il y avait cette demande aussi d'être formé à ces questions sur l'égalité femmes-hommes, mais aussi sur la lutte contre les discriminations. Et donc, ça passe aussi par des formations qui ont été mises en place et qui sont assez sollicitées à la fois par les étudiants, nous, dès la première année, donc avec une volonté, voilà, une politique volontariste sur Grenoble, d'avoir mis l'égalité femmes-hommes dès la première année sur des enseignements, et aussi sur la formation continue tout au long de la vie, avec par exemple un diplôme universitaire dont je m'occupe sur l'égalité femmes-hommes, et qui permet aussi de former des personnes qui sont en poste dans l'éducation nationale, dans les territoires, dans les collectivités, sur des questions alors de ressources humaines, mais aussi d'application des outils de l'urbanisme, de la ville, des territoires, parce que ça concerne aussi la ruralité, même si on est sur la ville aujourd'hui. Et effectivement, il y a eu toute une cohorte, y compris dans ma génération, on n'était pas formés sur ces questions de genre, et donc c'est pas qu'ils ne veulent pas faire, c'est qu'ils n'avaient pas les outils, pas pointé effectivement les connaissances, la création d'indicateurs, de cartes, etc., qui permettaient de pointer ces formes d'inégalité. Et donc, ça se passe au niveau national, mais aussi international, avec des ateliers qui peuvent être faits, alors avec mes collègues au Québec, mais je pense aussi avec les collègues de l'Institut d'urbanisme et de géographie qui travaillent à Sfax notamment.
On était avec vous, Sophie Louargan, et vous, Chris Blache, autour de cette série consacrée au genre et au lieu de l'inégalité. Aujourd'hui, on parle de la ville. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Es la violencia que ya ves.
Voilà l'atmosphère dans les rues du Chili, mais aussi du côté de l'Argentine. C'était un grand mouvement transnational, une performance intitulée « Un violeur sur ton chemin ». On était le 25 novembre 2019, à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Chris Blash, il y a évidemment une question qui est très prégnante quand on parle de la ville et des inégalités de genre, c'est celle de l'insécurité. L'insécurité, alors évidemment c'est un ressenti, l'insécurité, il n'empêche que c'est souvent un des éléments qui, d'une certaine manière, produit effectivement de l'exclusion chez les femmes, et donc l'exclusion, pardon, des femmes par la ville, et donc il faut évidemment travailler, les urbanistes, les architectes, pour trouver des solutions qui permettent d'améliorer ce sentiment d'insécurité, de travailler sur ce sentiment d'insécurité. Sauf que en ce faisant, il y a aussi le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on va aussi marquer, souligner d'une certaine manière le risque sécuritaire. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon équilibre, à la fois répondre au défi sécuritaire qui est une véritable préoccupation et qui est un véritable enjeu pour que les femmes puissent prendre la place dans la ville, et en même temps ne pas faire d'elles des victimes potentielles?
Alors, c'est un sujet très complexe et d'abord je voudrais parler de posture sécuritaire.
Je vous en prie.
Parce que c'est un outil politique, et cet outil politique a pour objet de quelque part maintenir les femmes dans un certain rôle et de maintenir de façon sociétale les femmes et les hommes dans certains rôles, dans certaines normes. Donc je pense que cet outil, il a été énormément utilisé, il l'est toujours, et d'ailleurs on voit bien que quand il s'agit d'inégalité de salaire, très peu de personnes s'en occupent, et dès qu'on parle d'insécurité, ça devient un vrai sujet. Donc je suis pas en train de dire pour autant qu'il n'y a pas d'insécurité. Je veux dire rétablir les choses, à savoir que les femmes sont tout aussi en insécurité dans l'espace privé. On le sait très bien, hein, c'est là qu'ont lieu la majorité des violences. Donc pourquoi est-ce que l'espace public serait un tel... Enfin, on est vraiment dans le mythe du petit chaperon rouge, encore une fois, avec le grand méchant loup qui attendrait dehors. Alors la question qui se pose à ce moment-là, c'est de fait de relégitimer cet espace, d'arrêter de dire que cet espace serait dangereux pour les femmes. On entendait dans le début de votre reportage tout à l'heure que quand il y a eu cette jeune femme qui disait on a d'abord attaqué mon copain et puis après on a tenté d'abuser de moi, je pense pendant les révolutions. Ça se passe souvent comme ça. D'ailleurs, ça se passe par une attaque entre garçons pour ensuite se refocaliser sur les filles. Mais donc cette nature-là, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à gérer, encore une fois, cette notion de la ville virile dans laquelle qui serait le seul code de conduite. Mmh. Voilà. Donc c'est autour de ça que nous on travaille. Et pour sortir de ça, il y a plusieurs choses. D'une part, c'est transformer les espaces et faire en sorte d'éliminer ces zones qu'on connaît bien, d'exclusivité d'usage pour revenir. Alors, on parlait des verrous tout à l'heure, on parle des espaces de sport, espaces sportifs, on en a parlé aussi. C'est aussi de reprendre la rue de façon symbolique, et ce qui vient d'être, enfin, ce chant des Chiliennes, il a galvanisé toutes les femmes du monde entier, ça a été repris partout dans toutes les langues. C'est une reprise de l'espace symbolique qui est forte, et ça on s'aperçoit que ça marche aussi, puisqu'il s'agit collectivement de reprendre des forces ensemble et d'affirmer que cet espace nous appartient aussi.
Et vous avez d'ailleurs participé, pardon de vous couper, à des marches collectives, et notamment la nuit, justement, pour se réapproprier cet espace-là.
Tout à fait. Ouais. Des marches collectives de nuit, mais aussi ce qu'on appelle les marches sensibles. Là encore, pourquoi est-ce qu'on a travaillé sur ces questions de marches, et pourquoi on a réorienté tout le vocabulaire sur ces marches? C'est que on voulait faire attention à ce que ce ne soit pas, que ça ne se resserre pas sur la peur, mais qu'on soit bien plutôt sur la logique des possibles. Qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut respirer, est-ce qu'on peut profiter de l'espace, est-ce que l'espace peut devenir un espace vivable, occupable et avec plaisir?
Sophie Louargan, sur cette question de l'insécurité, est-ce que vous abondez dans le sens de Chris Blash et cette idée qu'effectivement il y aurait peut-être une forme d'instrumentalisation de cette question-là? Et puis il va falloir quand même venir, j'allais dire, dans le dur, parce que on ne peut pas non plus nier cette question de l'insécurité, et en particulier dans les transports. Sophie Louargan, vous avez fait un ouvrage, notamment vous avez dirigé un ouvrage sur cette question de la mobilité, toutes et tous égaux, auquel vous mettez un point d'interrogation, et donc la question de l'insécurité est bel et bien prégnante dans cette capacité à se mouvoir à l'intérieur de la ville. Sophie Louargan.
Oui, bah, effectivement, accéder à la ville, une des premières conditions, c'est d'être mobile. Hein. Ça évite d'être assigné à résidence. Et effectivement, les formes d'inégalité... Alors, il faut pas être dogmatique, effectivement, dans la question sécuritaire. Et juste une anecdote, hein, j'étais sur une métropole une fois, que je ne citerai pas, et bon, j'évoquais cette question de voilà de la sécurité, effectivement, hein, de le corps des femmes qui est violenté, agressé, alors que ce soit par des agressions verbales, qui est touché, frotté, et qui est insupportable. Et donc, effectivement, je leur dis, c'est important qu'il y ait de l'éclairage, mais bon, voilà, écologique, etc. Donc, j'étais qualifiée de géographe de la lumière. Et en fait, c'était une manière aussi pour eux de me dire, ben voilà, on va mettre des caméras et de la vidéosurveillance partout. Et je crois que ce que veut dire Chris Blash, et que, voilà, où j'irai dans son sens, c'est que c'est pas uniquement l'aspect du contrôle par des outils. Alors, on sait, hein, qu'il y a des projets européens, effectivement, qui sont sur les big data, sur cette question d'observation dans les transports, parce qu'il y a un vrai enjeu et qu'il y a il y a des vraies agressions avec, voilà, les Chiliennes, enfin, tout ce qui se passe, c'est insupportable. Par contre, effectivement, c'est dire, il y a de l'insécurité, c'est comment on fait pour que aussi les femmes se sentent légitimes à être seules dans un transport public sans qu'il y ait voilà, sans qu'il y ait une agression potentielle. Et ça, c'est une question effectivement holistique, c'est une question transversale d'éducation, effectivement, qui va toucher. Et c'est là où souvent sur les approches de genre on est un peu embêté, au sens où on nous titille, parce qu'effectivement on est dans des valeurs culturelles, dans des valeurs qui peuvent toucher effectivement aux identités au pluriel des personnes et dans la manière dont elles se sentent légitimes dans l'espace public.
Mais alors, justement, comment on fait très concrètement, Sophie Loirgan, pardon de vous presser un tout petit peu, mais comme il faut avancer un petit peu. concrètement, prenons par exemple la question du métro. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer le sentiment de sécurité des femmes dans le métro? Est-ce qu'on est obligé de mettre, effectivement, comme vous le disiez, des caméras de surveillance un peu partout, quitte à se dire, bah, tant pis pour la protection de nos données personnelles, tant pis pour tout cela, ça vaut bien le coup? Ou est-ce qu'il faut trouver d'autres moyens, et lesquels? Ou d'autres, d'ailleurs, d'autres modes justement de déplacement? J'en sais rien, Sophie Loirgan.
Ah oui, alors les modes de déplacement, ça nous amènerait, mais certainement que Marion Thilouze va en parler plus tout à l'heure.
Absolument.
Voilà. Mais sur les questions de sécuritaire, on voit bien que c'est compliqué, parce qu'on a tendance à être dans une société où on veut verbaliser, on veut dire pour qu'il y ait de la sécurité, on observe et on verbalise effectivement. Et effectivement, dans des cadences et dans des flux comme des métros sur des régions parisiennes, on est effectivement dans quelque part ce système qui se met en place, parce que les violences sont quotidiennes, répétées. Et voilà. Donc ça, on a ce contexte-là dans les métropoles aujourd'hui, qui sont des outils, parce qu'on les connaît. En fait, c'est qui n'empêcheront jamais, qui seront toujours, comment dire, c'est un pansement par rapport effectivement à la question de mon point de vue, hein, de l'éducation, où effectivement, c'est pourquoi on s'autorise à agresser une femme, et quelles que soient les femmes, ou quelles que soient les identités de genre d'ailleurs présentes dans un transport public, hein, parce que ça concerne pas que les femmes, on s'autorise à l'agresser et voire à la victimiser. Pour aller sur l'exemple à nouveau de Casablanca, c'est qu'on va expliquer que c'est la faute des femmes parce qu'elles sont vêties de telle et telle manière, qu'elles sont aguicheuses, etc. Donc on reporte à chaque fois le problème en disant que quelque part c'est implicitement des transports qui sont faits aussi plutôt pour des corps qui représentent une norme et dans lesquels les femmes doivent être bien normées et codifiées. Donc être le soir tard dans un transport, potentiellement, une femme seule, ça veut dire que sexuellement, elle est disponible.
Chris Blash. Et peut-être pour poursuivre un tout petit peu, parce que malheureusement, on ne peut pas transformer les mentalités comme ça d'un seul coup. Alors, il faut bien peut-être aussi faire avec. Comment est-ce qu'on peut faire? Je pense par exemple à la question du vélo. Est-ce que les vélos, les trottinettes qui permettent justement de ne pas partager sa mobilité, est-ce que ce sont des bonnes solutions? J'entends bien, l'idéal serait de changer les mentalités, mais est-ce que ce sont des bonnes solutions justement pour aider à cette mobilité plus sûre des femmes dans la ville, Chris Blash?
Alors, bon, il pourrait y avoir des avis très très différents sur le vélo, où il y a beaucoup de femmes qui font du vélo et disent qu'elles se font harceler au feu rouge au moment où elles sont arrêtées. Donc, on voit bien qu'encore une fois, ça va pas forcément modifier les mentalités du jour au lendemain. Je suis pas sûre que les femmes... la notion de l'évitement, parce que c'est un peu ça qu'on est en train de dire, hein, c'est de tout d'un coup de devoir éviter certains modes, est un vrai sujet. On ne peut pas se résoudre à l'idée que du jour au lendemain, il faudrait qu'on ait nos propres cheminements, nos propres espaces. En ce Marion parlera tout à l'heure des wagons, etc. Moi, je les ai vécus à New Delhi notamment, et est-ce que c'est une solution? Peut-être pas. Mon avis est beaucoup moins tranché qu'avant sur ces sujets. Avant, j'étais totalement contre. Maintenant, je me rends compte que dans une ville aussi testostéronée que New Delhi, c'est parfois un espace de répit. Pour autant, le signal que ça envoie n'est pas très bon. Donc, je pense que, en tout cas, nous on avait préconisé des choses sur les transports en commun, qui étaient de sortir encore une fois des injonctions sécuritaires. Si au lieu de nous envoyer systématiquement des messages, alors en plus maintenant on a le message sur le coronavirus, mais des messages sur le terrorisme, sur faire attention à ceci, faire attention à vos sacs, etc. Si on envoyait des messages un peu plus bienveillants, comme on peut l'avoir parfois avec une conductrice ou un conducteur qui vous récite une poésie, et tout d'un coup on voit que tout le wagon change, c'est-à-dire qu'on change l'état d'esprit du wagon, qu'une complicité s'installe. Eh bien, on sait très bien que dans un temps de complicité comme celui-là, la violence est beaucoup plus difficile à faire passer. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent se faire. Alors ça peut paraître anecdotique, à mon avis ça ne l'est pas.
Alors on parlait de métro, justement, montons dans ce métro, on est du côté de Sao Paulo.
J'étais dans cette position et j'ai senti un mouvement bizarre. Comme il y avait une mère avec son bébé, l'enfant me poussait en bougeant. Donc dans ma tête, je pensais que c'était l'enfant et que la mère tentait de tenir l'enfant. J'ai senti un truc chaud sur mon pantalon. J'ai touché avec la main et je ne savais pas ce que c'était. L'agent me demande si j'avais vu qui c'était. Je lui dis non. Et comme il n'y a pas de caméra dans le train, il m'a dit bon voyage. Priella a assisté à une scène où un mec se masturbait. Le mec s'est frotté à elle et il a sali tous ses vêtements. Nous sommes descendus à la même station, on l'a dénoncé à la police en expliquant tout et personne n'a rien fait. Le garçon a refusé de descendre, le train s'est arrêté, les gens fatigués ont demandé la reprise du train et voilà.
Voilà, extrait d'un reportage de la télé brésilienne Globo. On va aller justement du côté du Brésil où on a mis en place des wagons non mixtes. Alors c'est le cas du côté de Rio et puis ça a été le cas du côté de Sao Paulo pendant un moment jusqu'à ce qu'on cesse justement ces wagons non mixtes et puis qu'on envisage de les réintroduire, ce qui n'a pas semblé faire l'unanimité. Bonjour Marion Tilous.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes géographe, maîtresse de conférence à l'Université Paris 8 et membre du laboratoire d'études de genre et de sexualité. Visiblement, quand on a envisagé, Marion Tilous, de remettre en place ces wagons non mixtes du côté de Sao Paulo, il y a eu un certain nombre de polémiques et en particulier dans les mouvements féministes. Pour quelles raisons, Marion Tilous?
Oui, tout à fait. C'est ça qui était intéressant. Quand on a eu ce vote par l'Assemblée législative de l'État de São Paulo en 2013, de réintroduire les wagons réservés aux femmes. On a eu toute une controverse qui s'est étalée pendant quasiment un an jusqu'à ce que le gouverneur de l'État décide de mettre son veto à cette mesure. Et on a eu une division des rangs féministes qui s'est répartie de la façon suivante. Les organisations féministes qui étaient plutôt liées à des syndicats, qui étaient très proches des classes populaires, des femmes qui sont coincées dans les transports publics, qui n'ont pas le temps d'aller porter plainte parce qu'elles doivent aller au travail, qui doivent reprendre les transports en commun le lendemain parce qu'elles n'ont pas la possibilité financière d'arrêter de travailler pendant un moment, et ben ces femmes-là se sont prononcées majoritairement en faveur des wagons réservés aux femmes, des wagons non mixtes. C'était des femmes qui étaient mobilisées depuis longtemps et qui cherchaient à s'autodéfendre, par exemple, avec des grandes aiguilles et des distributions de grandes aiguilles pour les femmes, pour qu'elles se défendent elles-mêmes. Et puis, de l'autre côté, on a eu plusieurs organisations féministes et des institutions aussi, des organisations proches de l'État lui-même de São Paulo, qui, elles, se sont prononcées majoritairement contre les wagons réservés aux femmes. Alors, dans ces arguments, on avait des arguments pratiques. Les arguments pratiques, c'était qu'est-ce qui va se passer pour les femmes qui vont aller dans les wagons mixtes? Est-ce que ça veut dire qu'elles seront d'accord pour se faire toucher, harceler, etc.? Est-ce qu'il va y avoir assez de wagons réservés aux femmes? Qu'est-ce qui va advenir pour les personnes trans? Est-ce qu'on va devoir décliner son identité de genre à l'entrée des wagons? Et qui va décider de qui est un homme ou une femme? Et puis la question aussi de quelle image ça renvoie, qui a été soulignée un peu plus tôt dans l'émission, de est-ce que ça veut dire que les hommes naturellement ne peuvent pas contrôler leurs pulsions sexuelles, et que donc la seule solution c'est de les séparer des femmes.
Peut-être, y avait des débuts de réponse à ces questions en se tournant du côté de Rio, puisque depuis 2006, il y a une mesure à Rio qui vise à séparer les hommes des femmes dans les trains entre 6h et 9h du matin et entre 17h et 20h, donc dans les, au moment des heures de pointe. Quelle leçon on peut tirer de tout ça? Est-ce que ça fonctionne? D'abord, est-ce que c'est appliqué? Et est-ce qu'effectivement, les femmes se sentent plus en sécurité dans ce contexte-là?
Alors, c'est assez peu appliqué parce qu'on a assez rarement des agents qui rendent cette mesure obligatoire. C'était aussi le problème à São Paulo. On n'a pas d'évaluation et le métro de São Paulo, c'est très très peu de lignes. En fait, c'est pas vraiment le gros des transports publics à Rio, pardon, c'est très peu de lignes. Donc non, il n'y a pas de retour et je n'ai jamais entendu parler à travers le monde parce que c'est une mesure qui se trouve dans beaucoup d'endroits à travers le monde d'évaluation en fait de cette mesure.
Oui, notamment à Mexico et à Tokyo.
Oui.
Et on n'a pas de retour.
Non.
Et alors, si on revient sur São Paulo, il y a eu un moment où on a commencé à mettre en place ces wagons non mixtes et puis on les a retirés. Pour quelle raison on les a retirés?
Alors, ça a été retiré parce que l'opérateur ne voulait pas les rendre obligatoires, considérant un article de la Constitution brésilienne qui assure à tout le monde le droit d'aller et venir. Donc, c'était une manière de s'abriter derrière un texte qui est prétendument neutre, mais qui, en fait, prend la position des hommes derrière un universel neutre, puisque on ne se préoccupe pas de savoir si les femmes peuvent effectivement aller et venir librement, mais on s'occupe du fait que les hommes ne doivent avoir aucune restriction dans leur mobilité, même si ça veut dire simplement ne pas avoir accès à un ou deux wagons de métro.
Et puis il y avait aussi peut-être des considérations, j'allais dire là vraiment pragmatiques, économiques, parce qu'il fallait mettre en place des dispositifs qui permettaient de garantir justement cette non-mixité aussi. C'est rentré en ligne de compte.
Alors, c'est des considérations qui sont économiques, mais mettre quelques stickers sur des wagons, c'est beaucoup, beaucoup moins cher qu'une solution qui serait efficace, qui serait d'investir massivement dans les transports publics et s'assurer qu'on n'ait pas des conditions de congestion qui permettent, en fait, toutes les formes de harcèlement qui sont spécifiques aux transports publics. Donc, c'est quand même une stratégie qui est économiquement plutôt intéressante. Mais malgré ça, ça n'a pas été considéré comme opérationnellement viable en 2014, notamment parce qu'entre 1995 et 2014, on a eu une privatisation d'une partie des lignes du métro de São Paulo et donc une difficulté à faire entrer dans les cahiers des charges des spécifications sur ces wagons réservés.
Même si de toute façon, l'argument économique ne peut pas primer, puisqu'il n'est pas question là d'économie, mais il est question d'autre chose, il est question d'égalité. Peut-être une réaction de la part de Chris Blash et de Sophie Loargan du Plex de Grenoble sur ce cas brésilien. Chris Blash, vous commencez?
Oui, moi je crois que Marion, je pense, a bien posé les choses. On a effectivement cette dichotomie, et j'en parlais tout à l'heure quand je parlais de ma réaction par rapport au métro de Delhi. C'est-à-dire que j'étais plutôt sur la position numéro 2, c'est-à-dire à dire que c'est excluant. C'est aussi une position d'ailleurs qui a été développée par un groupement de chercheuses indiennes qui s'appelle Wiloiter, enfin qui est sous un groupement qui s'appelle Wiloiter et qui s'est beaucoup battu contre ces wagons. D'un autre côté, comme je le disais, quand on est dans certaines villes comme New Delhi, on s'aperçoit que c'est peut-être parfois le seul moyen pour certaines femmes de se rendre à leur travail ou se déplacer. Donc ça a un petit peu modéré ma position. Et aujourd'hui, si je considère que ça ne doit pas être une fin en soi, je m'aperçois que parfois ça peut peut-être être un moyen dans une logique d'aller vers une forme d'égalité. Et ça m'a été confirmé par d'autres personnes qui effectivement travaillaient par exemple au Caire et qui ont dit que pour des raisons aussi culturelles, les femmes ne seraient pas autorisées à se déplacer si elles n'avaient pas ces conditions qui permettraient de le faire. Donc c'est, encore une fois, il n'y a aucune solution monolithique et dogmatique sur ces sujets. C'est complexe et on est toujours dans une sorte d'aller-retour permanent et je pense que c'est là où c'est assez intéressant aussi.
Sophie Loargan, oui, pour vous aussi, le pragmatisme l'emporte finalement?
Oula. Alors le le pragmatisme, oui effectivement, parce que c'est au cas par cas. Ouais. Et oui, en Suède, ils ont mis en place des systèmes d'arrêt à la demande entre deux transports, et donc ça fonctionne, et donc les femmes peuvent descendre en dehors des deux arrêts quand il y a une urgence. Et je pense que ce que soulignait Marion Tillous ou Chris Blash sur les exemples en Inde et au Brésil, qu'a pointé Gaël Gillot également à Rabat, c'est qu'on a des contextes aussi où on est sur des transitions à la fois économique, mais aussi de l'appropriation des femmes dans des espaces publics, alors comme le transport, mais aussi l'espace du travail, etc. Et où parle la question alors de l'émancipation, soit de leurs droits de femmes, ou soit parce qu'elles vont être dans du travail aussi, où auparavant elles n'étaient pas là. Par exemple, je pense à l'industrie textile à Rabat. Et donc, effectivement, ça les oblige à s'organiser sur des mobilités à la fois collectives, par des taxis collectifs, par accéder à du transport en dehors du regard et du contrôle aussi de leur mari, et d'être dans cette organisation-là. Et effectivement, de temps en temps, cette question de la non-mixité, elle est aussi quelque part nécessaire pour aller faire cette transition, effectivement, sur ce qui est quand même le cœur de notre sujet aujourd'hui, qui est d'être ensemble, quoi. D'être ensemble d'une manière la plus juste.
Mais sur le cas français, par exemple, vous ne l'envisageriez pas?
Personnellement, non.
Non, mais par contre, on a des exemples d'arrêt à la demande en France.
Les arrêts à la demande, voilà, ça fonctionne bien.
Où ça?
Alors, ça existe à Nantes, Bordeaux l'a mis en place. T'as peut-être d'autres exemples, Sophie?
Oui, Grenoble, oui, c'est à la fois sur la question femme, mais aussi sur les questions de handicap, voilà.
À Paris, il n'y en a pas, vous confirmez? Sophie Loargan?
Ah, il faudrait demander à Marion, qui est la spécialiste des transports, mais moi, de ma connaissance, non. De ma connaissance, non, je n'ai pas d'exemple sur Paris.
Merci beaucoup à Marion Tillous qui était à l'instant avec nous par téléphone. Un grand merci également à Sophie Loargan qui était avec nous en duplex de Grenoble. Je remercie d'ailleurs les techniciennes qui ont permis de faire la liaison jusqu'à nous. Et je rappelle que vous aviez dirigé l'ouvrage collectif Espace public, quelle reconnaissance pour les femmes, mais aussi mobilité toutes et tous égaux. Merci Chris Blash d'avoir été avec nous également ce matin. Je rappelle que vous avez vu participer à un ouvrage collectif, Le genre dans l'espace public, quelle place pour les femmes, c'était chez l'Harmattan l'année dernière.
Fait.
Un grand merci à toutes les deux, toutes les trois.
Merci.
Voilà, c'est avec Majed El Essa que l'on se quitte, une chanteuse saoudienne. 11h presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et vous nous parlez de démocratie parce que l'expression fatigue démocratique fait fleurir. À quoi l'attribuer, Brice?
Eh bien, regardez bien, nous sommes en face d'une situation bien paradoxale. Les électeurs qui ont la chance de pouvoir désigner librement leurs dirigeants au cours d'élections honnêtes, au sein d'une offre politique effectivement plurielle et concurrentielle, manifestent un désenchantement croissant envers la démocratie. L'ouvrage collectif « La démocratie dans l'adversité », récemment paru au CERF, recense les causes et les symptômes de ce qu'on a appelé donc la fatigue démocratique. Or, comme l'écrit l'un des nombreux co-auteurs de ce livre, l'italien Alessandro Campi, les vagues populistes de nature diverse qui secouent les fragiles édifices de nos démocraties électorales et représentatives constituent moins des causes de leur affaiblissement que des symptômes d'une déception envers ce type de régime. Comme les mouvements antiparlementaristes des années 30, leaders populistes d'aujourd'hui prétendent remettre le pouvoir au vrai peuple dont ils se considèrent comme les authentiques représentants. Mais contrairement aux mouvements totalitaires de l'entre-deux-guerres, ils ne proposent aucune alternative à la démocratie parlementaire. personne de sensé donnerait de nos jours l'idée de prôner la dictature fasciste d'une élite nationale émanant de toutes les couches de la société, ni même la dictature du prolétariat censée représenter par son parti d'avant-garde. Non. Contrairement à ceux de l'entre-deux-guerres, les leaders populistes d'aujourd'hui ne prétendent pas liquider la démocratie, mais au contraire l'amender, la perfectionner. Les uns pour la rendre plus juste, d'autres plus efficace, d'autres encore pour reprendre le contrôle, comme ils disent, restituer sa pleine souveraineté à la nation qu'ils estiment minée. Or, en Europe, ces forces impersonnelles censées miner la souveraineté nationale ont une adresse, Bruxelles. L'idée selon laquelle des éléments de cette souveraineté puissent être partagés afin d'en renforcer l'influence passe mal. Le concept de souveraineté européenne peine à convaincre. Cela se manifeste dans la montée régulière du vote eurosceptique lors des élections à travers toute l'Europe.
Alors Brice, trois chercheurs viennent de mettre à jour une carte européenne du vote eurosceptique. Qu'apporte-t-il de nouveau ?
Il s'agit de Lewis Dijkstra, de Hugo Pohlmann et de Andrés Rodríguez Posse. Ils viennent de publier en effet une étude portant sur les causes de cette désaffection. Ils estiment que le vote franchement hostile à l'intégration européenne est passé entre 2008 et 2018, de 10 à 18%. C'est donc la proportion d'électeurs qui voudraient que leur pays suive le chemin des Britanniques. Mais de leur côté, le pourcentage des électeurs qui ont voté pour des partis eurosceptiques, mais ne proposant pas l'exit hors de l'UE, est passé, lui, de 15 à 26%. Cela veut donc dire que la désaffection envers l'Union européenne atteint aujourd'hui 44% de l'Union. Terrible avertissement. Mais l'originalité de ce travail, c'est d'avoir privilégié non pas les caractéristiques individuelles de ces électeurs, mais les bassins électoraux particulièrement marqués par le vote pour des partis eurosceptiques. Et il en ressort une carte de l'euroscepticisme. Alors au niveau macro, on voit bien se dessiner deux Europes, celle des nations euro-enthousiastes, Chypre, Malte, la Roumanie, les trois États baltes, l'Irlande et l'Espagne. Et celle des États membres les plus eurosceptiques qui sont l'Autriche, le Danemark et la France. Mais c'est en affinant cette carte de l'euroscepticisme qu'on obtient les résultats les plus intéressants. Parce que si on prend le critère des régions, on voit que l'euroscepticisme se concentre dans le sud du Danemark, dans le nord de l'Italie, le sud de l'Autriche, l'est de l'Allemagne, l'est de la Hongrie, et le sud du Portugal. Mais si on affine encore la focale, alors on obtient des résultats encore plus significatifs. Ainsi, si le riche nord de l'Italie et le nord-est, nord-nord-est de la France sont eurosceptiques, on s'aperçoit que les grandes métropoles de ces mêmes régions, Milan, Turin, Lille ou Strasbourg, sont elles favorables aux partis pro-européens. Oui, ce sont les villes moyennes et les zones rurales qui votent eurosceptiques. Ce sont des régions en déclin économique où manquent les opportunités d'emploi qui forment les gros bataillons de l'électorat eurosceptique ou anti-européen. Les métropoles, elles, ne sont pas dans la même situation. Eh bien, cette analyse corrobore celle menée par le géographe Joel Kotkin sur le vote Trump aux États-Unis. Il a fait remarquer en effet que celui-ci tendait à s'accroître à mesure qu'on s'éloignait des deux côtes et des grandes métropoles. L'exemple typique, c'est celui de Chicago. La ville a voté très majoritairement pour Hillary Clinton et lui a apporté ainsi les 20 délégués de l'État de l'Illinois, l'un des rares États du Midwest à avoir basculé démocrate. Mais plus on s'éloignait de la grande ville de Chicago en descendant vers le sud de l'Illinois, et plus la carte électorale devenait uniformément rouge, c'est-à-dire acquise aux républicains. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, pour redresser la barre, concluent les auteurs de cette étude, il faut s'occuper d'urgence des situations de détresse territoriale.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On se retrouve lundi pour ce qui est du micro, mais demain pour ce qui est du numérique, puisque chaque vendredi vous publiez votre chronique sur le site de France Culture, Brice. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.